Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue au Festival de Rocamadour pour ce qui va être l'ultime journée de la 16e édition. C'est en effet ce dimanche 26 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur qu'a lieu le concert de clôture du Festival 2021. Il est donné par le pianiste Alexandre Tarot qu'on ne présente plus guère maintenant. Soirée de prestige avec le soliste instrumental de l'année des dernières victoires de la musique classique. Alexandre Tarot me fait l'amitié de répondre à mes questions pour les auditeurs de Radio Présence. Bonjour et merci Alexandre Tarot d'être au rendez-vous. Je disais qu'on ne vous présentait plus guère, mais je vais tout de même rappeler que votre immense carrière vous a valu plusieurs distinctions, des diapasons d'or, des victoires de la musique classique donc, et même un grand prix de l'Académie Charles Cros. Vous vous êtes produit dans les plus grands festivals et sur les plus grandes scènes. Vous êtes l'auteur de plusieurs dizaines d'enregistrements en solo ou accompagné, et votre répertoire s'étend de la musique baroque au contemporain, en passant bien sûr par les périodes classiques et romantiques, j'en passe et j'en oublie, parce que vous êtes en plus très éclectique et ouvert à d'autres formes artistiques. En revanche, il y a une chose que vous n'avez jamais faite encore, et vous me corrigerez si je me trompe, c'est de jouer à Rocamadour. Est-ce que c'est aussi pour vous une première venue et une découverte du lieu ?
Bonjour, alors oui, je ne connais pas Rocamadour, je ne m'y suis pas allé en touriste non plus, donc je suis heureux de découvrir ce lieu. En même temps, vous savez, dans cette vie de soliste qui nous mène d'un lieu à l'autre presque chaque jour l'été, parce que c'est vraiment la période des festivals, et on fait souvent des étoiles dans l'Europe, cette année c'est plutôt l'Europe que le monde extra-européen à cause du Covid, mais quand même c'est un rythme de voyage incessant, et donc on est fatigué quand on arrive dans un lieu. Donc il est très probable, je ne connais pas mes horaires de voyage, mais que j'arrive la veille très tard le soir, que le jour du concert je travaille, que l'après-midi j'ai un peu de temps, mais je suis sûr que je devrais faire une petite sieste, le concert le soir et le lendemain je repartirai. Et donc il y a quelque chose de frustrant dans cette manière de voyager, qui est en fait plus des déplacements que des voyages. Le voyage, c'est vraiment aller à la rencontre d'un paysage, d'une architecture, d'un lieu, des gens surtout. Alors que nous, musiciens solistes, on va d'un endroit à l'autre en ayant l'impression que c'est un peu le même endroit. Vous voyez, presque en apesanteur comme ça. Mais je suis quand même très heureux de venir pour la première fois à Rocamadour et j'espère que j'aurai le temps de visiter.
Alors ce site de Rocamadour est très connu pour son pèlerinage de la Vierge Noire, mais il l'est aussi des musiciens parce que c'est là que Francis Poulenc a retrouvé la foi lors d'un voyage qu'il avait fait dans la région en 1936, ce qui lui inspira ensuite ses célèbres litanies à la Vierge Noire. Poulenc, compositeur important pour les pianistes, est-ce qu'il l'est également pour vous ? Il me semble que oui, lorsqu'on regarde votre discographie.
Oui, c'est un compositeur qui m'a beaucoup touché. Alors, enfant, j'étais ami avec Madeleine Millot, qui était la femme, la veuve de Darius Milhaud.
Qui a vécu très longtemps, d'ailleurs.
Ouais. Et donc, je l'ai rencontré quand j'avais 8 ans. Et surtout à l'adolescence et au jeune âge adulte, donc entre 20 et 30 ans, j'allais la voir tout le temps au 10 boulevard de Clichy. On était très proches et elle m'a beaucoup parlé de l'époque du groupe des 6, Poulenc était vraiment l'ami des Millot, très cher. Bon, elle avait aussi des griefs, elle n'aimait pas toute la personnalité de Poulenc, mais elle m'en a parlé. C'est un compositeur qui m'a touché très tôt parce que, comme il disait lui-même, c'était un moine et un voyou. Donc il y avait ce côté religieux, donc la foi, comme vous venez de le dire. Et puis c'était aussi un mauvais garçon. Et il y avait Pigalle, il y avait le gros vin rouge, il y avait une dimension de lâcher prise dans la vie qui se retrouve dans sa musique. Alors peut-être que je lui ressemble un peu. Je n'ai pas la foi et je suis pas un mauvais garçon, mais je pourrais dire que j'ai un peu la foi et que je suis un peu mauvais garçon. Très peu la foi, très peu mauvais garçon. En tout cas, si je suis tellement attaché à lui, c'est qu'il y a quelque chose, un terrain commun qui nous fait nous rejoindre. J'aime aussi chez lui, je trouve que c'est un romantique attardé hein, dans le temps de l'histoire de la musique. Il aurait pu être très heureux à l'époque de Chopin et Liszt, par exemple. C'était un grand romantique. Il aimait plaire aussi. Il y a quelque chose dans sa musique qui me fait penser que c'était quelqu'un, comme dans la vie, qui avait besoin que les autres l'admirent. Et au fond, moi, qui ne l'ai jamais rencontré, il est mort avant que je naisse, mais c'est quelqu'un, comme d'ailleurs presque tous les compositeurs que je joue beaucoup, c'est quelqu'un que j'aurais envie de prendre dans les bras. et de consoler, de lui dire t'inquiète pas, on t'admire, regarde, maintenant le monde entier te joue et les musiciens pour la plupart adorent ta musique, tu n'as pas à t'inquiéter. Je pense que c'était quelqu'un de très insécure et qui avait peur des autres, peur de ce que l'on pensait de lui. Ça se ressent dans sa musique.
Donc ce sera un moment très particulier pour vous, enfin en tout cas j'imagine, de jouer un concert à la basilique Saint-Sauveur, le lieu même où Poulenc est revenu à la foi.
Oui, avec cette Vierge Noire. C'est très intéressant de jouer dans des lieux où ont été les compositeurs qu'on aime, et les gens qu'on aime d'ailleurs. Les lieux où ont joué certains pianistes ou certains compositeurs. C'est vraiment très inspirant. Je pense que les lieux respirent, les murs transpirent ce qu'ils ont vécu, ce qui a résonné là. Même si c'est il y a 60 ans, 70 ans.
Là, on reste des ondes.
Ça reste encore.
Il y a des ondes qui demeurent.
Et nous, musiciens, on est en quelque sorte des médiums. Médiums, bien sûr, parce qu'on transmet le message d'un compositeur à l'auditeur, mais aussi on est le réceptacle de toutes les vibrations qui circulent dans la salle pendant le concert et qui mettent en lien voilà, l'histoire du lieu, l'atmosphère, ce qui s'est vécu, ce qui s'est joué là.
Et pour vous, il y a quelque chose de spirit dans un concert, si je comprends bien.
Ah, totalement, oui, totalement. Mais je pense que toute personne qui a fait de la scène l'a ressenti.
Il y a un autre compositeur français contemporain de Poulenc, même s'il est de la génération précédente, qui est très cher à votre cœur, Alexandre Tarot, c'est Maurice Ravel. Et ça, je tenais à en parler avec vous parce que c'est une passion que nous avons en commun. Vous avez enregistré son intégrale pour piano seul en 2003, paru sous le label Harmonia Mundi. Vraiment une version de référence. Qu'est-ce qui vous touche tant dans la musique de Ravel? Et là, je m'adresse autant à l'interprète qu'à celui qui écoute tout simplement la musique de Ravel.
Alors c'est un compositeur que j'ai découvert très tôt par un disque, Le Petit Ménestrel. Alors c'était l'histoire des compositeurs racontés aux enfants. Et puis il y avait aussi un disque de L'Enfant et les Sortilèges. Beaucoup d'enfants découvrent Ravel comme ça, par les sortilèges, par la magie qu'il apporte. Et puis ensuite au piano. Et quand on est enfant et qu'on joue Ravel, la première pièce pour moi c'était le Menuet sur le nom de Haydn. On sent comme c'est un compositeur qui nous aimait et qui voulait qu'on se fasse plaisir avec sa musique. Donc c'est très bien écrit. Il met beaucoup d'indications sur ses partitions parce qu'il était très scrupuleux, mais aussi parce qu'il veut qu'on joue le mieux sa musique et qu'on se sente à l'aise avec sa musique. Donc il y a une espèce comme ça de connivence, presque de grand frère qui veut vraiment qu'on soit heureux dans la vie. Quelque chose d'assez bouleversant, aussi parce que c'est un compositeur très secret durant sa vie et qui disait tout au piano, qui écrivait du piano et qui disait ses failles, ses amours, sa solitude, ses malheurs, ses bonheurs aussi. Mais c'était plus difficile pour lui de dire à ses amis, à sa mère, à ses proches, ses malheurs que ses bonheurs. Et donc je pense que c'est un compositeur qui nous a chuchoté à nous, pianistes et auditeurs, à travers le piano, tout ce qu'il ne pouvait pas dire durant sa vie. C'est peut-être ça qui me bouleverse le plus chez lui. Par la musique, on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Et Ravel en est vraiment l'exemple absolu.
Oui, bah alors c'est très drôle, si on peut dire, parce que j'allais vous demander justement, Ravel est un personnage discret, secret, et moi j'avais le sentiment, et vous venez de le confirmer, que peut-être plus qu'aucun autre compositeur, il a mis toute son âme, tout ce qu'il était profondément dans sa musique, beaucoup plus
c'est
que
ça.
Dans sa vie finalement,
c'est
et
ça.
C'est ça qui vous le rend, et je pense qu'il le rend si proche à tous ceux qui aiment sa musique.
Oui, alors dans sa vie, je pense qu'il a fait des choses aussi incroyables que dans sa musique, mais on ne le sait pas. C'était quelqu'un, par exemple, qui sortait énormément le soir. Il allait à un concert, et puis après, il disait à ses amis, alors il sortait du Théâtre des Champs-Élysées, « Bon, allez, je vais marcher dans Paris, au revoir. » Et c'était toujours comme ça. C'était un homme de la nuit. Il vivait beaucoup la nuit et dormait le jour. Et donc, il y a énormément de mystère dans sa vie. L'homme du mystère, donc ça se ressent aussi dans sa musique. Et je crois qu'il a profité de la vie tout de même, mais avec beaucoup de secrets. C'est un homme qui était vraiment très réservé. Par exemple, personne n'a vu un seul de ses manuscrits non terminés. Manuel Rosenthal, que j'ai connu, me racontait qu'un jour, il est arrivé, c'était son unique élève. Et il est arrivé à Montfort-l'Amaury, dans la maison de Ravel.
Oui.
Il est rentré dans cette petite maison, puis il est arrivé, et là, Ravel avait mis des manuscrits sur le piano. Manuel Rosenthal a dit « qu'est-ce que c'est ?» Et Ravel s'est mis dans une colère. Il a pris très très rapidement les manuscrits, il les a vite rangés dans un placard. Ça l'a rendu hors de lui parce qu'il ne voulait surtout pas qu'on voit quelque chose qui n'était pas terminé, quelque chose qui n'était pas perfectionné de lui. Sa musique, mais tout ce qu'il faisait. Et donc, il n'y a quasiment aucun témoignage sur ce que Ravel faisait, vivait dans le secret.
Alors, j'ai évoqué il y a quelques instants l'intégrale pour piano seul de Ravel que vous avez enregistrée en 2003. On va écouter un extrait de ce CD. Alexandre Tarot joue le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel. Le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, extrait du CD de la magnifique intégrale pour piano seul, enregistré par Alexandre Tarot en 2003 sous le label Harmonia Mundi, ce qui nous amène à parler maintenant du programme du concert que vous donnez ce soir à la Basilique Saint-Sauveur. Là, pas de Poulain, pas de Ravel et pas de musique française, mais un programme romantique bâti autour des funérailles de Liszt, avec également des pièces de Schubert et Chopin. Je disais tout à l'heure que Ravel tenait une grande place dans votre cœur et dans votre répertoire. Quelle est celle que tient l'œuvre de Liszt, composée de première importance pour les pianistes, sachant qu'il était lui-même un virtuose du piano?
Alors Liszt, qui a inspiré Maurice Ravel d'ailleurs, Liszt est énorme pour un pianiste, parce qu'on sait que dans notre vie, on n'aura pas la possibilité de jouer toute son œuvre. Ça s'est fait, je crois qu'il y a un pianiste anglais qui a enregistré 77 CD ou quelque chose comme ça. C'est absolument délirant. Donc, délirant à tout point de vue. D'abord parce que techniquement, c'est très difficile, très virtuose. C'est immense. Il y a des œuvres qui n'en finissent plus, hein, qui sont comme des symphonies. C'est un délirant parce que c'est un piano orchestre. C'était un inventeur de couleurs. Mais son piano ne lui suffisait pas. Et est-ce que le piano d'aujourd'hui, d'ailleurs, plus de deux siècles après, lui suffirait? Je ne sais pas. Mais c'est un piano duquel il fait sortir un orchestre immense de 500 musiciens. Et donc, tout est puissance 1000 avec Liszt. En même temps, dans les passages intimes ou dans les dernières œuvres de sa vie où il revient à l'essentiel, comme tous les compositeurs d'ailleurs, les compositeurs âgés qui sentent la fin arriver, reviennent à des formes assez classiques et avec un matériau sonore presque pauvre. Eh bien, les dernières œuvres de Liszt sont très simples. C'est assez incroyable d'ailleurs après tout ce qu'il a écrit dans sa vie. Donc voilà ce que représente Liszt pour un pianiste, en tout cas pour moi. Un immense artiste dont je ne ferai jamais le tour, même pas le tour du dixième de ce qu'il a écrit. Donc c'est impressionnant, un peu comme Beethoven, mais c'est quand même plus récent. Puis c'est vraiment le compositeur romantique, le compositeur qui a tout vécu. Vous voyez qu'il y a un personnage comme ça en France aujourd'hui, enfin européen, c'est Gérard Depardieu. Je fais le lien là, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs dans le passé, mais je fais ce lien de cet acteur qui joue tout, qui a été dans tous les pays, qui est businessman, qui fait plusieurs métiers, qui fait du vin, qui a eu 100 000 femmes. Enfin, c'est un peu ça, Liszt. Toute proportion gardée, mais il y a quelque chose de ça. C'était un mangeur de vie, de musique, un mangeur de tout qui englobait la vie dans son ensemble, qui voyageait énormément, qui écrivait mais du matin au soir, qui devait dormir peu. Et puis c'était aussi une star gigantesque. Quand on voit aujourd'hui des pianistes à veste à paillettes ou veste de couleur, et qu'on crie au scandale, ben, je trouve pas que ce soit scandaleux du tout. Et surtout, moi je pense à nos ancêtres pianistes, c'est-à-dire ceux qui ont créé le métier de pianiste, qui étaient Czerny, Thalberg, Chopin, Liszt surtout. Et Liszt, quand il portait des collants sur scène, donc c'était un sexe symbole, c'était une star très sensuelle, bien tout Paris voulait porter des collants. Un jour, il va chez le coiffeur et il veut absolument des cheveux qui descendent, il y a d'ailleurs des gravures comme ça, où on le voit, des cheveux tout plats, un peu comme certaines femmes aujourd'hui, chanteuses, qui mettent, ou actrices, qui mettent les cheveux complètement droits, comme ça, lissés. Eh bien, ça ne se faisait pas à l'époque. Et bien, la semaine qui a suivi, le tout Paris allait chez le coiffeur en demandant la coiffure de Liszt. Donc, c'était vraiment un musicien, une icône, qui allait bien au-delà de la musique, ce qui est très rare aujourd'hui. Enfin, il y a très peu de stars planétaires de musique classique qui peuvent comme ça prendre une coiffure et que le monde entier voudrait...
Non, ça se rapproche plus de ce qu'on appellerait aujourd'hui une rockstar, en fait, hein, ce qu'il est
exactement
à l'époque. Alors, vous avez évoqué Chopin, que vous avez mis également au programme de votre concert. C'est l'exact contemporain de Franz Liszt, également pianiste virtuose, mais alors à la personnalité totalement opposée à celle de Liszt. Quelle relation vous entretenez avec sa musique et peut-être même avec le personnage, finalement?
Chopin, c'est le compositeur qui a vécu à la même époque que Liszt, mais c'est un peu son opposé dans le sens où il n'est pas exubérant. C'est un homme, contrairement à Liszt, qui n'aimait pas les scènes, les grands concerts. Vous savez, au début du 19e siècle, donc on va dire exactement 2 siècles en arrière, les salles de concert devenaient de plus en plus grandes, les pianos devenaient de plus en plus grands et les pianistes devenaient des stars alors que jusque-là, ils étaient plutôt dans un orchestre, dans un groupe de musiciens, même pas de profil par rapport au public, donc on les voyait peu, il y avait toujours un chanteur à côté d'eux, donc c'était pas un instrument qui mettait en valeur un soliste, c'est-à-dire quelqu'un seul sur scène. C'est d'ailleurs Liszt qui a apparemment inventé le récital de piano. Il s'est mis seul sur scène. Et donc Chopin, lui, il en donnait des concerts, il fallait bien gagner sa vie, mais c'était pas son grand plaisir. Son grand plaisir, c'était d'improviser. Et c'est un musicien surtout improvisateur. Et il aimait jouer, mais dans des petits salons, ou pour lui seul. Je pense à George Sand qui raconte un moment qu'elle est à Nohant au premier étage et elle entend Chopin qui improvise pendant des heures en bas et elle écrit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi on pourrait pas garder tout ça? Écrire à l'époque, on pouvait pas enregistrer ce qu'on entendait. On pourrait pas écrire cette musique qui, pendant des heures, parce que moi, George Sand, je l'entends, mais personne ne peut l'entendre et c'est de la musique qui va partir et Chopin ne peut pas écrire tout ce qu'il improvise. Voilà. Alors, ce qui me touche chez Chopin, c'est un peu comme Ravel. C'est un homme qui est aussi mystérieux, qui était malheureux quand même, il faut le dire,
oui.
Et qui, comme Ravel...
Malade,
qui est malheureux en amour aussi, malheureux parce que c'est un déraciné, il est parti très jeune de sa Pologne natale et il n'y est jamais retourné, donc c'est quelqu'un qui vit toujours dans une mélancolie, ce qu'on appelle le jal polonais, c'est-à-dire c'est une mélancolie profonde, proche de la dépression. Et cette Pologne natale infuse toute sa musique, mais comme quelque chose qui était heureux et dans le passé toujours. Donc c'est une musique magnifique que tout le monde, ou à peu près tout le monde, adore. Mais c'est une musique dangereuse aussi pour nous, musiciens, parce que quand on travaille beaucoup Chopin, quand on le joue beaucoup en concert, on peut être happé par cette mélancolie profonde. Il faut garder de la distance. Et avec Chopin, c'est pas facile. Puisque c'est un improvisateur, sa musique doit être très subtile. Et elle doit être jouée vraiment au tempo juste, avec la nuance juste, mais comme un improvisateur. C'est difficile de suivre un texte écrit et de jouer comme si on venait d'ouvrir la partition.
Il y a un équilibre difficile à trouver.
Voilà. Alors dans une tournée, c'est compliqué. On a l'impression qu'on est toujours trop peu ou trop dans le tempo, dans la couleur, dans la nuance. Et c'est un compositeur finalement, peut-être l'un des plus difficiles à jouer sur scène pour ces raisons-là.
Eh bien, vous avez également consacré plusieurs enregistrements à l'œuvre de Frédéric Chopin, à ses préludes, à ses valses. Et il y a un CD aussi intitulé Journal intime, paru en 2010, consacré à Chopin. On va vous écouter dans une interprétation de la très belle valse numéro 2, opus 64.
Thank you.
La valse numéro 2, opus 64 de Chopin, interprétée par Alexandre Tarot, qui n'est pas au programme de votre concert de ce soir à la Basilique Saint-Sauveur. Vous allez jouer la sonate numéro 2, opus 35 du compositeur franco-polonais. Dans ce programme, vous avez adjoint à Liszt et Chopin leur aîné Schubert, dont vous allez interpréter Rosamund, une musique de scène pour orchestre que vous avez transcrite pour piano seul. Transcrire au piano des œuvres écrites originellement pour orchestre, c'est une de vos petites passions, Alexandre Tarot.
Oui, j'ai toujours aimé transcrire. On parlait de Chopin et de Liszt, qui à l'époque étaient donc des compositeurs improvisateurs. À l'époque, tout pianiste était compositeur et obligatoirement improvisateur. Il n'y avait pas forcément de texte, de partition. Puis quand on jouait ses propres œuvres, on rajoutait 10 minutes, hein, sans problème. Il y a de multiples témoignages de gens qui ont écouté Chopin jouer par exemple une ballade qu'il avait déjà écrite et éditée en partition. Et puis on dit, voilà, la ballade durait 20 minutes, alors que cette ballade ne devait durer que 7 minutes. Donc les pianistes commençaient comme ça à jouer et perdaient, un peu comme les jazzmen aujourd'hui, ça perdait la notion du temps. Et j'aime cette notion de pianiste-compositeur. Et c'est pour ça que j'ai transcrit des pièces. Je trouve que même si certaines pièces existent déjà dans une version au piano, c'est très intéressant de transcrire soi-même des pièces d'orchestre au piano. Parce que on transcrit pour nos propres mains. C'est-à-dire qu'on va mieux faire sonner le piano parce qu'on a écrit pour nos doigts, nos mains. Et je trouve que chaque pianiste devrait faire ses propres transcriptions plutôt que de jouer les transcriptions des autres.
Eh ben, je conseillerais à nos auditeurs d'aller en particulier écouter, ça se trouve facilement sur YouTube, votre transcription du fameux Adagietto de la symphonie numéro 5 de Mahler. C'est une petite merveille et aussi un véritable exploit que vous avez réalisé là. Une dernière chose, on terminera là-dessus. Vous composez également. Vous ne vous contentez pas de transcrire des œuvres pour le piano, vous composez. C'est un peu votre jardin secret, mais on peut en parler tout de même. C'est quelque chose qui n'est pas complètement mis sous le boisseau.
Non, je ne suis pas Ravel qui cache la moitié de sa vie. On peut parler de tout et c'est vrai que j'en ai peu parlé. Je voulais être compositeur. Oui. Et puis après, le piano a pris le dessus, donc j'ai mis ça de côté. Et puis je ne voulais pas du tout en parler pour éviter de ressasser toujours les mêmes phrases, de s'excuser de quelque chose. Et puis là, pendant le confinement, le premier confinement, j'ai remis au propre plusieurs pièces que j'ai éditées et que j'ai enregistrées même. Et puis j'ai continué. Là, vous voyez, avant de parler, j'écrivais. Je trouve que c'est quelque chose de très agréable, de simplement, un peu comme écrire un livre, mettre son stylo sur la page vierge. Alors nous, ce sont des pages avec des portées,
des portées.
Hein, 5 traits comme ça, c'est très beau une page de musique sans notes. Et puis de remplir cette page, comme quand on écrit, on commence quelque chose et puis sort de nos tripes autre chose. Quand on écrit de la musique, comme quand on écrit un texte, on va vers ce qui est au fond de nous, ce qu'on ne connaît pas encore. C'est ça qui m'intéresse en fait. Je crois que, comme disait Yves Saint-Laurent, la plus grande rencontre de notre vie, c'est celle qu'on fait avec soi-même. Écrire de la musique, comme écrire des mots, c'est aller à la rencontre de soi-même. Et je trouve ça passionnant.
Merci beaucoup Alexandre Tarot, c'était très agréable d'échanger avec vous, un grand plaisir pour moi, je l'espère pour nos auditeurs. Je rappelle que vous donnez le concert de clôture de l'édition 2021 du Festival de Rocamadour ce jeudi 26 août à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, avec un programme romantique autour des funérailles de Franz Liszt, auquel s'ajoutent des pièces de Schubert et Chopin. Passe sanitaire toujours obligatoire pour assister à ce concert. Nos auditeurs peuvent acheter et réserver leur place sur le site www.rocamadourfestival.com. En espérant qu'il en reste quelques-unes. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous quotidien tout au long du festival. À bientôt sur les ondes de Radio Présence et très bonne fin d'après-midi à tous.